Question de la semaine. Quels sont les atouts des livres audio adaptés pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage? Sont-ils facilement accessibles?
Et cette question vous est posée à vous qui nous entendez sur le câble ou peut-être sur canalem.vuesetvoix.com. Vous pouvez répondre directement sur la page. D'ailleurs, vous pouvez aussi répondre sur les réseaux sociaux. Dites-nous si vous trouvez ça intéressant, les livres adaptés, si vous les utilisez, quelles sont vos expériences, si vous trouvez ça difficile d'y avoir accès, parce que c'est quand même, on va se le dire, un marché assez émergent. Il y a des groupes qui en proposent, mais bon, c'est pas dans toutes les bonnes librairies ou même dans les bibliothèques. Alors, voilà, répondez à la question. Et vous le savez, l'émission, c'est notre tradition. On souhaite alimenter la conversation. On a avec nous deux personnes qui sont mordues de troubles d'apprentissage. Notamment, avec nous, Denise Archambault, qui est orthophoniste à la retraite, donc a travaillé pendant 40 ans auprès des jeunes qui ont des troubles du langage. Elle est aussi bénévole à Vues et Voix. On l'entend, hein, j'imagine? On vous entend dans des livres très souvent?
Bien sûr, depuis 5 ans en tout cas.
Donc depuis 5 ans, si vous empruntez des livres via le SQLA à la Bibliothèque et Archives nationales, ceux qui sont produits par Vues et Voix. Vous allez peut-être entendre Denise Archambault. Bonjour, Denise Archambault. Donc.
Bonjour.
Vous allez intervenir un peu plus tard, mais d'abord, je m'adresserai à Madeleine Fauteux, qui est orthopédagogue, qui est une personne ressource à l'Institut des troubles d'apprentissage. Rappelons d'ailleurs que vous êtes en plein colloque ou en fait à la veille d'un colloque sur les troubles d'apprentissage à l'Institut.
Effectivement, notre colloque sur les troubles d'apprentissage ayant pour thème troubles d'apprentissage et défis dans le monde de demain. Mm-hmm. Alors, il se tient cette semaine du 21 au 23 mars à l'hôtel Westin et justement notre présidente et Madame Brigitte Stanquet.
Ben oui, Brigitte Stanquet, qu'on aura l'occasion de rencontrer dans une autre émission. Ceci dit, Madame Fauteux, vous êtes en première ligne, vous voyez tous ces besoins qui sont de plus en plus importants. Rappelons qu'une personne sur 10 au Québec a des difficultés d'apprentissage?
Effectivement, on parle d'une personne sur 10 ayant des troubles d'apprentissage.
C'est énorme!
Beaucoup.
Et ça ressemble à quoi exactement ces troubles d'apprentissage?
Alors, on va trouver des troubles de lecture, mm-hmm. d'apprentissage de la lecture, donc de dyslexie.
Ah oui.
Et des troubles d'apprentissage de l'écriture, dysorthographie. Mm. On va retrouver dyscalculie aussi, d'autres troubles.
Dyscalculie, on l'entend, c'est le
on
calcul.
Effectivement. Mais je dirais que la majorité des téléphones, des demandes, pour l'instant, vont toucher de façon plus spécifique les troubles en lecture, la dyslexie. Donc, évidemment, on peut parler de troubles d'apprentissage de façon plus large les jeunes, chez les adultes aussi.
Oui, parce qu'on a une période, on est dans une période où on diagnostique davantage, mais on peut s'imaginer que pendant des générations, on n'a pas trop porté attention là, aux difficultés. En général, c'était tu sais pas ta matière, tant pis pour toi, apprends davantage.
Effectivement.
Mais donc, ce bassin-là est très important. Vous avez montré jusqu'à quel point il peut être diversifié. C'est quoi les difficultés de Thierry?
Thierry, c'est un élève qui a notamment des difficultés en lecture, dyslexie, dysorthographie.
Donc ça, c'est un cas type que vous utilisez?
C'est un... personnellement, je le connais moins. J'en ai entendu beaucoup parler.
Ouais.
C'est beaucoup pour Vues et Voix. C'est un élève pour lequel Vues et Voix ont enregistré des romans au secondaire, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de romans à lire au secondaire. Mm-hmm. Ils ne sont pas tous disponibles en mode audio. Mm-hmm. On parle ici de mode audio, alors l'expérimentation visait à enregistrer des romans pour répondre aux besoins de Thierry. Et effectivement, les retombées ont été grandioses.
Mais donc, c'est une inspiration, en quelque part, c'est ce premier élève, je dirais... pour lequel on a voulu répondre à ses besoins. Puis c'est devenu pratiquement l'initiateur de tout le reste. J'exagère quand je dis ça?
C'est un projet qui va bon train, effectivement.
Oui, ça va bien.
Donc, l'expérience étant très positive, le projet, Lucie Robitaille pourrait vous en parler davantage, puisque c'est elle qui est l'initiatrice de tout ce projet. Alors, le projet a été ouvert dans une plus large mesure.
Bon, alors on apprécie que ça soit maintenant rendu disponible au plus grand nombre. On est aussi avec Denise Archambault qui partage un peu la même science que vous, mais qui depuis 5 ans fait des livres, travaille des livres adaptés audio. Donc, qu'est-ce que c'est exactement, parce que vous voulez côtoyer au quotidien ces livres-là?
Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est? Mais... Il faudrait peut-être préciser aussi à qui s'adresse livre audio adapté, parce que dans le cas de Vues et Voix, on parle de livre audio adapté.
Oui, c'est important.
Parce qu'il existe des livres audio, là. Bon.
Ouais.
Mais ici, c'est un livre audio adapté qui, en tout cas, je préciserai peut-être tantôt.
Mais vous pouvez le dire, en fait, c'est quoi la différence? Un livre audio ne mentionnerait pas tout? Il y a moins d'audio description, qu'est-ce que c'est?
Bien, c'est pas enregistré de la même façon.
Ah.
Et on peut avoir accès au livre audio adapté à l'aide de... On peut le télécharger à l'aide d'un logiciel comme AMI, le logiciel AMI, ou on peut utiliser un petit appareil qui s'appelle le Victor Reader.
OK.
Bon, qui permet... Et cet appareil-là permet de lire, c'est-à-dire de se repérer, de repérer les chapitres, les pages. On peut aussi ralentir la lecture sans que la voix soit altérée à l'aide de cet appareil.
Ouais.
Alors, pour des enfants qui sont en difficulté, par exemple, ou qui ont des troubles moteurs qui sont en difficulté de lecture, c'est vraiment un outil précieux. Et c'est particulier, c'est très différent, là, comme dans son mode d'utilisation qu'un livre audio régulier, là, normal.
Plus standard, OK.
Oui, plus standard,
Et vous
c'est
y œuvrez, donc, à la production de ces livres audio adaptés. Ces différences-là, on les comprend. Est-ce que ça peut... Comment ça peut aider les jeunes, en fait? Comment on arrive à être aidé par un livre audio adapté?
Bon, comment on y arrive? J'aimerais apporter quelques précisions. Est-ce que je peux me permettre
ça?
Bon, c'est encore un grand méconnu en milieu scolaire, le livre audio adapté. Et il est peu utilisé encore comme mesure d'aide en milieu scolaire. Il est peu recommandé dans les plans d'intervention. Et pourtant, c'est un outil technologique qui est répertorié comme mesure d'aide.
Oui,
là.
Absolument, oui.
Bon, et il est gratuit. Il est facile d'accès par le réseau des bibliothèques. Il est facile à manipuler avec, justement, le petit appareil Reader. Bon. Et puis, il donne accès à un vaste répertoire d'œuvres littéraires en français et en anglais. Alors, pour des enfants qui auraient des difficultés, on parle de dyslexie, dysorthographie, mais moi, comme orthophoniste... je pense à toute la clientèle des enfants, par exemple, qui ont un trouble de langage.
Oui.
Qui doit fournir beaucoup d'efforts pour apprendre à lire et qui ont pendant longtemps des difficultés à encoder, à décoder, et pour qui la lecture demeure laborieuse.
Même décourageante.
Parce
que s'attaquer au livre quand on présente des difficultés, ça fait qu'on ne le termine pas, ça fait qu'on ne trouve pas ce qui cache comme trésor, et là...
Et c'est le grand risque, c'est que
ils
perdent complètement
pour la,
la motivation à la lecture. Alors, justement, c'est ce qu'on veut favoriser par le livre audio adapté. On veut permettre à ces enfants de pouvoir lire, mais lire autrement.
Bien sûr.
Parce que lire avec un livre audio, c'est lire, mais c'est lire autrement. Et
Et donc, ces livres-là, ils sont de plus en plus... ils sont en plus recherchés, mais pas assez parce qu'on est obligé d'intervenir, là. est-ce que vous entendez... Comment les gens qui les empruntent ou les utilisent reçoivent ça? Est-ce que les jeunes, ils se sentent en train de lire? Est-ce qu'ils trouvent ça, au contraire, plus habituel comme mode?
Beaucoup plus intéressant. Comme
les balados, ou etc. Hein?
Mais c'est beaucoup plus intéressant parce que, grâce à la voix humaine, parce que c'est certain que, bon, aujourd'hui, avec tous les outils technologiques qui sont à leur disposition, il y a les ordinateurs avec les voix de synthèse.
Oui.
Mais... écouter un livre avec une voix humaine où l'intonation, le rythme, les émotions sont données par un lecteur expérimenté, c'est toute la différence.
Absolument, oui.
Et tantôt, Madeleine mentionnait les élèves du secondaire qui ont souvent des romans et des textes de plus en plus longs et complexes à lire. Alors, ça devient un outil précieux pour
Bien
eux.
Bien sûr. Et souvent même, il faut le rappeler, il y a des élèves dont le français n'est pas la première langue.
Voilà.
Alors, cette manière d'entrer en contact avec le texte est très aidante. Là.
Très, très. Pour tous les élèves allophones. Là.
Ouais.
En tout cas, c'est un souhait pieux qu'on fait parce que ça n'entre pas encore dans les définitions. Là,
ouais.
Dans la déficience perceptuelle, ce n'est pas une clientèle qui est... intégré, mais moi, c'est un souhait que je ferais, qu'on puisse inclure tous les enfants allophones qui pourraient se familiariser avec la mélodie de la langue française.
Parce qu'il y a ça aussi, en fait, c'est lu, mais évidemment, c'est entendu, donc nécessairement, ça va aider notre conversation, éventuellement, ou d'autres manières d'utiliser la langue.
Oui, bien sûr. Et comme tantôt, vous me demandiez mon rôle, ou en tout cas comme bénévole à Vues et Voix, en tout cas, je peux assurer les gens de la qualité sonore des productions à Vues et Voix. Et tous les bénévoles qui sont des lecteurs expérimentés.
Bien sûr, des voix magnifiques. Oh, oui. Écoutez, des gens qui ont fait, par exemple, la radio toute leur vie, qui ont souvent été professeurs, orthopédagogues orthophonistes, pardon. Et ils prêtent leur voix à des livres, puis c'est heureux de les entendre.
Tout à fait. Bon. Ils sont capables de rendre une lecture pas seulement expressive, et surtout dans le cas parle des albums jeunesse, par exemple, on peut distinguer là, pour les adultes.
On le présente pas différemment.
C'est ça, parce que pour les adultes, on peut se limiter à une lecture expressive.
Mm-hmm.
Bon, et c'est ce qu'on fait là, à Vues et Voix. Mais pour les jeunes, les romans jeunesse, les albums,
ça peut être davantage didactique. Vous pouvez
faut une lecture interprétative.
Ah, interprétative.
Où
oui.
on va faire ressortir les émotions, certains mots de vocabulaire, où on va lire peut-être un petit peu plus lentement
pour que les enfants mettent du sens aussi, que ça soit clair pour eux.
Voilà.
Ah oui.
Bon. Voilà.
Écoutez, on pouvait pas avoir meilleur passionné pour nous présenter le livre audio. Peut-être qu'un peu après, on pourrait revenir avec Madame Fauteux après cet instant musical pour comprendre un peu mieux sur le diagnostic, comment on accède aux livres, comment tout ça s'installe dans la grande chaîne de l'apprentissage. Thank you.
Question de la semaine. Quels sont les atouts des livres audio adaptés pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage? Sont-ils facilement accessibles?
Continuez de répondre à la question sur canalm.vusezvoix.com. Vous le savez, c'est un peu notre mission ici de parler de livres adaptés audio. C'est heureux, on a entendu Denise Archambault qui est orthophoniste, mais qui est aussi bénévole à Vusezvoix, nous parler avec passion, oui. Avec cœur.
Cœur et passion.
Du livre adapté audio. Et je me retournerai aussi vers Madeleine Fauteux, qui est orthopédagogue, pour comprendre un peu mieux le chemin vers le livre audio adapté, puis aussi quel genre de retombées il peut avoir. Alors, dites-le nous d'abord, est-ce qu'il faut un diagnostic pour emprunter, pour utiliser le livre adapté, le livre audio?
En fait, il nous faut un plan d'intervention,
oui,
sur lequel le moyen sera inscrit.
Mm-hmm.
Cependant, de plus en plus, au secteur jeune,
mm-hmm,
c'est-à-dire au primaire et au secondaire,
ouais,
nous travaillons nous ne sommes plus de façon catégorielle. On n'est plus dans un système catégoriel.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il ne faut pas précisément une évaluation diagnostique pour dire, mm-hmm, que c'est une dyslexie, dysorthographie, okay, avant de mettre en place un plan d'intervention. Alors, auparavant...
Ça prenait absolument un diagnostic. Il fallait, oui, trouver un médecin, un psychologue, un orthopédagogue ou un ergothérapeute. Absolument, ouais, c'est ça.
Alors là, dès qu'il y a des difficultés d'apprentissage et que ces difficultés-là résistent, persistent, en dépit des interventions qui ont été faites par l'orthophoniste, par l'orthopédagogue, mm-hmm, on est en mesure et on se doit de faire un plan d'intervention dans lequel on va mettre en place des moyens et des outils.
Mm-hmm.
Et au niveau de l'apprentissage, ce que disait Denise, c'est qu'on oublie qu'il existe les livres audio,
bien sûr,
qui sont un moyen d'apprentissage inouï,
mm-hmm,
parce que il existe deux registres. Lorsque je parle, j'utilise un registre de langue.
Mm-hmm.
Et lorsque je lis, c'est un autre registre.
Ah,
alors,
c'est
je ne parle
ça.
Pas de la même façon que, mm-hmm, je lis ou j'écoute un
Donc,
livre.
On peut accéder à un meilleur vocabulaire, un niveau de langue plus élevé quand on lit.
Effectivement.
Ce qui n'est pas le cas de quand on parle.
La lecture, est le seul moyen, mm-hmm, d'acquérir un langage qu'on peut nommer littéraire.
Ah oui.
Parce que dans la rue, les gens ne vont pas se parler comme lorsqu'on écrit, évidemment.
Ils ne vont pas se parler au passé simple ou en employant quelques cinq syllabes. Par exemple?
Effectivement. Alors, le jeune qui n'a pas de difficulté ou l'adulte qui n'a pas de difficulté en lecture va nécessairement acquérir ce vocabulaire-là. Il va l'enregistrer en mémoire et lorsqu'il va écrire, il va l'utiliser.
Mm-hmm.
Alors, le jeune qui a des difficultés ou des entraves pour rejoindre la lecture n'aura pas cette richesse-là. Donc, lorsqu'il va venir pour écrire un texte, lorsqu'il va venir pour avoir une structure du récit, disons, il ne, mm-hmm, l'aura pas. Et plus qu'on est en apprentissage, plus qu'on a accès à de nombreux livres, plus on peut les comparer et puis en retirer une richesse. Autrement, si ça me prend 2 mois à lire un roman, dans une année scolaire, j'aurai très peu de romans lus.
Donc, pour vrai, c'est un indicateur sur le nombre de romans de livres qu'on peut lire dans une vie pour développer son langage.
Oui, oui. Mmh. Et puis, je voudrais ajouter à ce que dit Madeleine, c'est qu'en contexte d'apprentissage, comme on le mentionnait tantôt, pour, mmh, un enfant, pour un élève à qui ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts,
oui,
ce qui serait souhaitable, c'est que cet enfant-là ait accès au livre audio adapté.
Bien sûr.
Qui pourrait, en première lecture, par exemple.
Mm-hmm. Alors, en première lecture au tout départ.
Au tout départ.
Oui.
Et même, il pourrait écouter le livre et avoir une copie livre en même temps.
Donc, on peut jumeler les deux.
On pourrait jumeler les deux, oui.
Et ça se faisait, c'était très populaire. Quand j'étais enfant, il y avait toute une série de livres.
Oui. Avec les petites clochettes.
Oui, c'est ça qu'on n'ose pas nommer parce que la compagnie n'a pas besoin de notre publicité.
Oui.
Mais il reste quand même qu'on avait accès à la fois au lu et à l'oral ou à l'audio. C'était super aidant.
Oui, et le fait d'avoir une idée en première lecture du texte, mm-hmm. ben ça permet de se familiariser avec les mots, de se faire une idée du contexte.
Bien sûr.
Et par conséquent, d'améliorer sa compréhension. Et puis, sans oublier que ça fait travailler la mémoire.
Ah hein? Oui, oui.
Alors, de cette façon-là... l'enfant pourrait ensuite relire le livre, mais il reconnaîtrait beaucoup plus facilement les mots.
Et, oui, parce qu'il y aurait plusieurs supports. Il y aurait la mémoire, il y aurait quelque chose qui est plus entendu ou dans les souvenirs des entendus. Ah, c'est fascinant. Et on en parle de plus en plus du livre audio adapté. D'ailleurs, dans le cadre du Congrès international sur les troubles d'apprentissage là, que vous préparez, qui sera lancé demain, ou en fait cette semaine, pour les gens qui nous écoutent plus tard, Vues et Voix va donner pour la première fois une conférence. De quoi il va s'agir, Madeleine Fauteux?
Alors, on va traiter du livre audio comme étant une valeur ajoutée pour les personnes vivant avec un trouble d'apprentissage.
Mm-hmm. Donc, on martèle le clou, là, un peu.
Oui,
là.
Effectivement, parce que les gens croient que le livre audio adapté, c'est-à-dire, est utilisé par des personnes qui ont une déficience visuelle, disons, ouais. mais ne pensent pas aux troubles d'apprentissage.
Voilà.
Et Lucie Robidas, lors de cet atelier, va accompagner nos participants. Mm-hmm. Elle va démontrer comment se fait le chemin d'accès
Du début à la fin,
un enseignant, comment il peut emprunter pour ses
Donc,
élèves.
Donc, les outils seront clairement démontrés. Surveillez ce colloque sur les troubles d'apprentissage. Sinon, merci beaucoup, Denise Archambault, orthophoniste et bénévole à Vues et Voix. Merci. Madeleine Fauteux.
C'est un plaisir.
C'est un vrai plaisir. Madeleine Fauteux, orthopédagogue à l'Institut des troubles d'apprentissage. On aura plus d'informations sur la page avec le lien vers votre site web.
Effectivement.
Au plaisir.